Merci beaucoup. Merci. Amis auditeurs, bonjour. Alors, toujours sur Radio Libertaire, après l'émission de Chronique Hebdo. Donc, de midi à 14h, l'émission de Rimes et de Notes, comme toutes les semaines. Même lieu, même heure. Et aujourd'hui, eh bien, deux parties d'émission. Bien, pardonnez-moi du peu, avec beaucoup de qualité, beaucoup de richesse, beaucoup de choses à dire. Et alors, je vous donne le menu tout de suite, comme ça, vous, voilà, vous saurez ce qui va se passer, ce qui va vous arriver à votre oreille. Vous êtes chez vous, ou vous êtes dans la voiture, ou vous êtes aussi au travail et vous écoutez Radio Libertaire en catimini derrière votre bureau. Voilà. En tout cas, vous allez écouter notre ami Jean-Paul Liégeois, qu'on connaît bien sur l'antenne et qu'on aime toujours le recevoir. Il est éditeur du Cherche Midi et on va en parler après. Il y a un livre sur Léo Ferré, un petit livre, un petit trésor. C'est pour les fêtes, c'est une belle Bible, on va dire, hein, qui arrive. Et puis, avec Jean-Paul Liégeois, accompagné de Jean-Paul Liégeois, notre Annick Cizaruc, nationale, internationale, et tout, et qu'on reçoit à l'émission depuis le siècle dernier, hein, et on est très content, toujours aussi jeune, et toujours aussi talentueuse. Voilà. Après, je te dirai plus de compliments, c'est fini, non, je blague, c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va parler, bien sûr, on va diffuser des chansons, des inédits et des choses très rares que nous a apporté Jean-Paul. Alors ça, vous allez voir, écoutez bien. Nous allons écouter des chansons d'Annick Cizaruc qui font partie de son album L'Âge d'or, mais il y a des surprises et des projets, même qui ont même déjà commencé, des projets. Et en deuxième partie, nous recevrons Anne Sylvestre pour son nouvel album, pour son spectacle. Et elle nous dira tout ça, voilà, tout ce qui concerne ses spectacles et tout ce qu'elle prépare pour bientôt, les projets et tout. Donc voilà, je crois que j'ai fait le menu, il est fait là, hein, c'est à la carte ou c'est le menu du jour en tout cas. Eh bien, nous allons donc commencer. Je voulais juste vous dire un truc. Oui, déjà, je commence à faire des petits retours en arrière, mais c'est important parce que on a écouté tout à l'heure, vous savez, Isabeau dans Le Temps des Cerises. Toutes les semaines, je passe un extrait du Temps des Cerises parce que c'est le jingle de la radio. Maintenant, tous ceux qui connaissent Radio Libertaire le savent. Et ensuite, donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'Isabeau, avec le piano d'Alvaro, et au Petit Théâtre du Bonheur tous les derniers vendredis du mois. Petit Théâtre du Bonheur, il est à Montmartre, dans un escalier, 6 rue de Revet. Si vous connaissez pas, allez-y. On s'est rencontrés pour Céline Fauché, Jean-Paul Dubois, Liégeois, pardon. Jean-Paul Dubois, c'est un écrivain.
Et puis il y a un acteur aussi.
Alors voilà. Non, c'est Jean-Paul Liégeois. En fait, il faut penser au café et au chocolat liégeois en ces moments de fête.
À propos de Liégeois, j'ai fait la connaissance il n'y a pas très longtemps de quelqu'un qui est peut-être de ma famille de façon extrêmement lointaine.
Oui.
Et qui est peintre.
Oui.
Qui vit dans la Sarthe et qui fait des beaux portraits de Léo Ferré, qui s'appelle Jacques Liégeois.
C'est incroyable ça.
Voilà.
Écoute,
je ne savais même pas qu'il existait. J'avais vu des peintures de lui, mais je ne savais pas qu'il était aussi spécialisé.
Donc, il faut prendre contact.
Il a beaucoup travaillé sur Léo Ferré. Ah oui, ça serait bien de le faire venir, de discuter avec lui de ce qu'il fait. C'est assez beau, j'ai vu ça.
Eh bien, c'est super. Alors, Isabeau chante, reçoit un invité musical différent chaque mois. Donc, c'est le bonheur dans ce petit théâtre. Comment tu le trouves, ce petit théâtre? Il est marrant, il est insolite.
Il est très sympa. Hein, puis je pense que par la froidure actuelle, on a bien chaud dedans.
Je sais qu'il y a Joël Favreau aussi, je le dirais tout à l'heure. Il va faire des spectacles aussi.
Mais il est passé déjà plusieurs fois, Joël.
Oui, il a déjà commencé.
Du bonheur,
oui. Voilà. Et donc, voilà, on va commencer pour la mise en route de l'émission, de notre première partie d'émission, par une chanson qui est sur Métamec. C'est pas souvent que je diffuse des chansons là-dessus. Je sais pas pourquoi, comme il a été fait après et tout ça. J'ai choisi Le Vieux Marin. Bon, on sait l'amour de Ferré pour la mer et pour les marins. Et donc ça, c'est un extrait d'une pièce de Richard Martin, qui était un grand ami à lui, hein, marseillais, l'Opéra des Rats, créé en octobre 83 au Théâtre Tourski de Marseille, et Léo Ferré avait écrit l'ensemble des dialogues de ce spectacle. Ensuite, vous allez voir plein de surprises, plein de belles choses, plein de nouveautés. En nouveauté, pas des nouveautés, mais des choses qu'on a, pour ainsi dire, jamais entendues. Une antenne.
Qui sont sorties, par exemple, dans les interprètes de Ferré, il y a des petits 45 tours qui sont sortis dans les années, à partir de la fin des années 40 jusqu'au début des années 60, et qu'on n'a jamais réécouté. Et la maison Barclay a eu la bonne idée, en même temps qu'elle ressortait une intégrale Barclay de Léo Ferré, 266 titres, une paille.
Quand même, ouais.
Malgré la brouille avec Barclay, elle avait quand même enregistré chez Barclay. Barclay a sorti un double CD qui s'appelle Les interprètes de Léo Ferré, où il y a des merveilles, où il y a Léo Marjan, René Lebas, qui était lapin, Edith Piaf, qui chante Ferré, beaucoup de belles dames, Cora Vauquer, Juliette Gréco, Francesca Solville, enfin, il y a des choses extraordinaires. Plus aussi Montand, les frères Jacques, enfin, on n'en finirait plus.
Une grande richesse, en tout cas.
Oui, une grande richesse. Mais ces choses-là ont été très peu écoutées, parce que c'est enregistré dans une période où Léo lui-même n'est pas connu, puisque Catherine Sauvage va le faire connaître seulement à partir de 1955. Et c'est intéressant de voir que des grandes interprètes se sont intéressées à lui dès le début, avec beaucoup de clairvoyance.
Alors, on dira après, pour l'album Est un mec, on en parlera. Si, voilà. Donc, on va écouter d'abord Le Vieux Marin.
La mer est allée chercher fortune. Là-bas, sous les jupons de la lune, et moi, qui ne suis qu'un pauvre oiseau, mouette ou goéland gigolo, je crie qu'elle revienne bientôt. Tous ces calmes matelots figés dans leur statut de bateau, tout gris de la marée de tantôt. J'ai mon tabac, je suis de la sécurité, je paie pas d'impôts l'hiver, je mets mon sandaille, je biche, je fous rien. La vie, c'est comme la mer retirée au loin, comme le dit le calendrier. Vraiment, il y aurait de quoi bien se marrer, petit, si elle revenait jamais partout. Parmi les algues et le sable, il y a un tout petit coin de table, toi, qui n'est pourtant pas méchant. Tu trouves des coquillages en fond. Je mange pas de poisson, vu que c'est lourd pour mes igues. Je suis bien. Quand j'embarquais, j'avais mon litre de rhum, je buvais. Ton cœur, c'est comme une vague indomptée qui plie sous le chagrin d'une fée qui fait une scène au vent du nord, qui sort avec une voile loin du port. Et là, dans un café d'horizon, tu bois quelques coups à ta façon et verse une ou deux larmes d'écume, mes plumes, une voile de pluie dans la brume. Quand je partirai, je mettrai mon defalco de mazette et ce bon dieu de merde qui me laisse pourrir à terre. Salaud.
Chanson rare qu'on écoute rarement, et tu as une petite anecdote à raconter là-dessus.
Non, simple, c'est même pas une anecdote. Simplement, vas-y. Mais ta mec, c'est quelque chose de très particulier dans la discographie de Léo Ferré, parce que c'est un ensemble de titres que Léo ne destinait pas au départ du tout à une sortie sous forme de CD et à une mise en vente publique. En fait, c'est à partir de bandes de travail. Il travaillait chez lui au piano, on l'entend, il est tout seul au piano, sur ce titre-là. Il travaillait, il essayait des choses. Et c'est vrai que pour un travail de répétition, pour c'est quelque chose d'assez beau, d'assez abouti. Mais c'est Mathieu, et c'est son droit, c'est le droit des ayants droit, de Mathieu, de Marie. Mmh. Et ils ont décidé de le sortir, d'en faire un enregistrement. Ça a provoqué un peu des remous, parce que ça n'a pas été présenté comme tel, c'est-à-dire comme un document. Alors que ce n'était pas du tout des bandes destinées à la diffusion au départ, même si elles ont été bien travaillées, bien nettoyées, etc. Donc le malentendu, il est là-dessus. Sinon, c'est très intéressant à titre documentaire, c'est formidable.
C'est peut-être exprès pour que dans l'album, les photos de son visage sont floues. Dans l'album, mais ta mec, on le voit pas.
Je ne sais pas quelle est l'intention derrière ces photos.
Alors. On va en revenir, voilà, à l'actualité d'aujourd'hui. C'est-à-dire l'actualité d'aujourd'hui, c'est d'abord tous les livres que tu as écrits, mais on n'en reparlera pas aujourd'hui parce que ça, il faudrait 5 heures, une heure par livre minimum. Mais voilà, il y a le dernier, le petit dernier, ton bébé. Tu disais que c'était ton préféré.
Ah oui, je l'aime beaucoup. Voilà. Je l'aime beaucoup parce qu'il est consacré à Léo, parce que sans vouloir être démonstratif, ce que j'ai essayé de faire en rassemblant des propos que Léo a tenus dans la vie, ce ne sont pas des passages de son œuvre. C'est une sorte d'abécédaire par thème, mais la façon j'ai voulu montrer comment Léo dans la vie parlait de l'amour, la mort, le temps qui passe, enfin tout ce qui est dans son œuvre, l'essentiel, la musique, la poésie, les poètes, la folie. J'ai voulu montrer simplement que ses préoccupations et sa façon d'en parler dans la vie étaient vraiment des échos parfaits, exacts, sans différence avec son œuvre. Ouais, c'est tout. C'est parce que je n'aime
d'ailleurs,
pas beaucoup.
D'ailleurs, tu dis, l'homme et l'artiste ne faisaient qu'un.
Oui, ça c'est voilà. C'est une évidence, puisque voilà, Léo est quand même un phénomène exceptionnel. Je veux dire que moi, je sais que c'est la mode de classer les gens, de dire numéro un ceci, numéro un cela. Oui. Léo est très très à part. Il est un peu à part. Dans la chanson du XXe siècle, comme Rimbaud était à part dans la poésie du XIXe, inclassable, très différent des autres. Et dans son cas, que sa vie d'artiste et que sa vie personnelle ne fassent qu'un, c'est une évidence depuis le début, parce que il a cette caractéristique, et qui explique toute la suite et toute l'œuvre, de la précocité artistique, de l'envie de création extraordinaire. C'est-à-dire que on connaît le cas de Mozart. On pourrait citer dans les contemporains, je pense à elle parce que une émission lui a été consacrée hier soir, à Martha Argerich. Martha Argerich a commencé spontanément à jouer du piano toute seule à 2 ans et demi. Léo, dans sa tête, a fait sa première composition musicale à 4 ans. Bon, ouais. Martha Argerich a eu la chance
rentre à la maternelle à peu près. Voilà.
Donc, des gens comme ça, ce sont des gens assez particuliers. Et Léo, je n'ai jamais compris qu'on ne comprenne pas sa particularité, sa singularité, et je n'ai jamais compris qu'on l'attaque sur une prétendue différence, voire un gouffre qu'il y aurait entre sa personne privée et son œuvre artistique. Je trouve au contraire qu'il y a une coïncidence, une harmonie entre les deux exceptionnelle. Alors moi je le sais parce que je l'ai connu, alors j'ai eu la chance de le rencontrer. Non, j'ai pas prétention d'avoir été parmi ses intimes et ses proches.
Non, mais tu l'as bien connu
quand même. Je l'ai connu très tôt.
Très tôt dans ma vie.
Mais c'est presque très tôt aussi dans sa carrière, puisque c'est à la fin des années 50, au début des années 60 que j'ai commencé à le voir. Pour une raison toute simple, c'est que j'allais au lycée avec un de ses neveux. Voilà, donc. Et moi, je n'ai jamais vu un homme de duplicité. Je n'ai jamais vu tout ce qu'on raconte sur lui.
Pas de compromis pour, avec,
je ne dis pas qu'il n'a pas des contradictions, on en a tous.
Mais pas de compromis, peut-être.
Mais si le mot pur veut dire quelque chose, je pense que Léo était impur.
Tu dis que même aujourd'hui, nous, malgré 20 ans après sa mort, nous avons encore besoin de lui.
Oui,
parce qu'il y a
une sensibilité chez Léo qui est intemporelle, voire, je me méfie du mot, mais éternelle. Et parce que cet homme est une plaque sensible qui nous renvoie à tous les problèmes de l'humanité qu'on rencontre, quelles que soient les époques.
De sa façon de s'insurger sans barguigner contre les horreurs de toutes sortes. Et autres, il y a aussi des chansons d'amour, il y a aussi de tout, en fait. Il y a de l'amour dans l'œuvre de Ferré.
Je crois que l'amour, c'est son moteur.
C'est ce qui prend le plus de place.
Voilà, l'amour, c'est son moteur.
Tu débutes... Ouais. Bonjour.
Bonjour, Annick.
Moi, ce qui m'a... Bon, j'ai lu ton livre, évidemment, et toutes ces phrases. Enfin, la première, déjà, dit tout. Je crois que ce que j'écris, c'est toujours plein d'amour, vraiment plein d'amour. Je n'écris que ça. Et je trouve que, ben voilà, avec...
Oui, la révolte et la colère, c'est quand il trouve des obstacles sur le chemin de l'amour, en fait, c'est tout. Que ce soit l'amour à titre individuel, l'amour de l'humanité en général, l'amour
pour
des arts,
animaux,
l'amour des poètes, l'amour de toutes les formes de vie, en fait. Voilà, s'il se met en rogne, s'il se met en colère, et s'il a été toute sa vie un homme en colère, c'est parce que l'amour lui a été, le chemin de l'amour lui a été coupé parfois, même trop souvent. Voilà. Et il le dit d'ailleurs, il dit pourquoi on fait de la politique, c'est pour se défendre. C'est-à-dire que, il considère que l'humanité est le pire de des bourreaux, et l'humanité est son propre bourreau. Et du coup, évidemment, il était bagarreur envers les humains qui se conduisaient de façon incroyable, qui détruisaient tout. Mais c'est une atteinte à son idéal d'amour. C'est-à-dire que là, moi, je crois qu'on est vraiment avec Ferré dans le fourneau, dans le cœur des idées libertaires, avec à la fois la passion, l'amour, l'utopie, et puis on se bat parce que tout ça, on voudrait que ça advienne, et puis qu'il y a des obstacles, c'est tout.
Et il y a une petite phrase, une autre phrase, en gros, elle dit « Je me bats avec les mots, mais jamais physiquement, jamais... » Et ça, c'est beau, c'est par les mots, par la...
À part une graine d'ananas, ça rejoint ce que tu viens de dire.
Mais
sur le côté
le plus
libertaire.
Important chez Léo, je crois que même si la poésie est venue un peu après, dans son enfance, mais le plus important, c'est la musique. C'est ce qu'il a tenu de bout en bout. Et dans la musique, on voit très bien, si on connaît un peu la musique, ou alors il faut...
C'est étonnant ce que tu dis, parce que beaucoup vont dire « Ah oui, pourtant les mots, quelle richesse,
non,
quelle
grandeur !» Non, mais il y tenait, et puis j'oserais dire, il s'y est mis, mais il a commencé par la musique, et la musique a toujours été la musique dans la rue, ça a toujours été sa passion, mais la poésie en même temps. Mais la poésie, si on réfléchit, les poètes qu'il aimait...
C'est musical, déjà.
Oui, voilà, la langue de ces poètes-là est extrêmement musicale. Mais je veux dire que je veux juste prolonger ce que dit Annie sur le terrain de la musique, qui est vraiment la colonne vertébrale de Léo. C'est qu'on voit qu'il aimait à la fois profondément Beethoven et la violence de la musique de Beethoven, et il aimait passionnément Ravel, qui est la douceur même.
Voilà.
Donc on a les deux composantes.
Sur une balance.
Voilà, il serait plutôt, je pense, naturellement, spontanément du côté de Ravel, mais comme il faut gueuler, comme il faut se battre, et ben on prend aussi Beethoven à bras le corps.
Alors il chantait La vie moderne qu'on va écouter par Annick Cizaruc. Il y a de quelle année La vie moderne? Des années 60.
Non, c'est un peu plus tard. C'est plus ancien.
Plus ancien encore.
C'est plus ancien. Il l'a mis en musique. Je sais plus très bien quand, mais ça a été chanté. Je sais plus. Je sais plus, mais c'est avant les années. Non, c'est avant les années 50. C'est avant les années 50 parce que ça a été.
C'est incroyable.
Aujourd'hui, il n'y a pas de rides.
Voilà. Aucune. Ben la voilà, la vie moderne.
Il l'a rendu public dans les années 60, mais il l'avait écrite avant.
Et il n'a pas changé un hiatus de sa chanson. Et alors, on l'écoute par Annick Cizaruc dans cet album qui s'appelle L'âge d'or. On va dire les projets juste après. Et voilà, c'est incroyable ce terme si moderne encore aujourd'hui, et incroyable et hélas aussi, on va dire peut-être parce que
c'est ça ce que j'appelle
bouffe.
L'éternité
ça
ou la pérennité de Léo, voilà. C'est parce qu'il écrit dans son époque, mais il écrit pas pour son époque.
Et on
va qu'il
voir
écrit
aussi
pour l'histoire de l'humanité entière.
Et on va voir aussi après avec Anne Sylvestre, il y a aussi des appointances entre eux, je crois, on va dire.
Moi, j'ai tendance à penser que c'est un peu, c'est sans doute involontaire, parce que je pense pas que l'une et l'un
c'est complètement
composait
involontaire.
Ou écrivait en pensant à l'autre.
Ah non, complètement involontaire, mais c'est leur œuvre et c'est leur talent qui fait ça. Alors, La vie moderne, par Annick.
Mon père avait 14 enfants. Et si je me nippe chez Dior maintenant, aucun rapport évidemment. Ma vertu s'est mal défendue, jamais personne n'en a rien su, moi quand je l'ai su, y'en avait plus. La vie moderne, la vie moderne. J'avais un nez comme Cyrano, un grand, un patin rigolo, un vrai radar gigolo. Depuis qu'on me l'a récupéré dans une clinique à bon marché, bah je peux même plus renifler les michets. Vie moderne, avec 10 ronds de fécondants, la biologie fait des enfants qui rentrent tout seuls chez leur maman. Dans les labos, il y a des corps nus. Et dans la rue, il n'y a plus de cocu. La poule fait la fou, mais ne chante plus. Les filles, on avait les bas tirés. Et des culottes toutes ajourées qui éclairaient vos crépuscules. Aujourd'hui, on a des collants qui collent aux yeux de nos amants. Et l'amour meurt. Le crêpe sur le cul. Vie moderne. Dans les usines, y'a plus personne. Ça fait plus net quand midi sonne et que Miss Robot danse la polka. Y'a des boulons électroniques qui se vissent tout seuls. C'est fantastique. Et qui vont pas au syndicat.
C'est intéressant ça.
La vie moderne. Les journaux, c'est comme les pansements. Faut en changer de temps en temps, sinon ça vous froisse les idées. Et puis d'abord, faut pas d'idées, car les idées, ça fait penser. Et les pensées, ça fait.
Annick Cizaruc, alors.
Alors.
Dis-nous. Connétable, déjà,
alors,
reprise
non, c'est-à-dire non. Qu'en fait, c'est un deuxième bébé.
Deuxième bébé.
Léo. Oui. Voilà, on continue parce que c'est tellement immense l'âge d'or c'est une chose et puis on a eu envie, enfin j'ai eu envie et David aussi, puisque c'est lui qui avait toujours avec lui, qui fait les arrangements, j'ai eu envie de faire un deuxième spectacle sur Léo. Et voilà. Et donc là, on le joue, depuis quelques lundis. Mais voilà, on s'entraîne, on change des choses,
Et donc il n'y aura pas du tout les mêmes chansons.
Il y a peut-être deux ou trois chansons
qui reviennent
parce que on en a besoin un peu parce que c'est un sujet pas difficile, mais c'est moins. Qu'est-ce que Jean-Paul pourrait en parler parce qu'il l'a vu un peu.
Moi, je, C'est surtout quelque chose d'assez original de la part d'une interprète de Léo Ferré. Parce que je ne sais pas, Marlène, si tu l'as remarqué, mais quand on s'attaque à Léo Ferré et qu'on l'interprète, en général, on s'arrête à peu près à 1968. Tout ce qu'il a fait ensuite n'est pas tellement pris en compte. Et Annick, là, elle a, avec David, son magnifique accordéoniste, ils s'attaquent tous les deux à une partie de ce que Léo a fait, ce qu'il appelait notamment ses chansons symphoniques, c'est-à-dire ses textes assez longs, derrière lesquels il mettait tout un orchestre. C'était chanté, il y avait une mélodie, mais en même temps...
Ce qu'elle va nous présenter, c'est l'après 68
Non, il y a aussi des textes d'avant. Ouais. Mais dans l'ensemble de la vingtaine de chansons, sur ce que j'ai vu, il y a déjà pas mal de textes d'après 68, ce que personne jusqu'à maintenant n'avait fait. Il y a toi, il y a l'amour fou, il y a cette blessure, il y a je te donne, qui sont des choses quand même auxquelles personne ne s'attaque en général.
Ou rarement. Très rarement. Ouais, tout à fait.
Je n'ai jamais rien aussi.
Il
y a des choses. En fait, ça s'appelle Ne chantez pas l'amour.
C'est le deuxième titre de ton.
Voilà. Et c'est avec Jean-Paul parce qu'on travaille ensemble un petit peu sur tout ça parce que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider justement. Au début, je voulais appeler ce spectacle L'amour fou parce que je le chante aussi et puis c'est une thématique sur l'amour, la mort, la folie, voilà. Et puis on a réfléchi, je lui ai lancé le bébé, je lui ai dit mais ça me va pas, l'amour fou, bon voilà, c'est pas ça non plus, c'est pas ce que je chante non plus. Et puis voilà, il a trouvé ce titre magique, moi je trouve, Ne chantez pas l'amour, qui est assez...
qui est décalé de Ne chantez pas la mort, évidemment.
Voilà, et c'est tout le contraire, on chante que ça, quoi. Voilà, la phrase que j'ai dite au départ du livre de Jean-Paul, ça commence par ça.
Alors, dans celui que nous avons et qui est sorti il y a deux ans, le CD.
Trois ans maintenant.
Donc, il est récent aussi.
Oui.
Donc. C'est formidable de déjà s'attaquer à un deuxième.
Je pense que c'est.
Puis t'es dans la lancée, dans la passion aussi peut-être.
J'adore Léo, quoi. Voilà. Je crois que c'est quelqu'un qui m'a tellement frappé et fait ce que je suis maintenant parce que dès que je l'ai vu, j'avais 16 ans, donc quand je l'ai vu et ça m'a complètement ça a changé ma vie. Oui. Léo a vraiment changé ma vie.
Alors, dans le premier album, tu chantes La mémoire et la mer, chanson incontournable dans un tour de chant. Enfin, en général, c'est vrai que c'est quelque chose de tellement fort. Alors, je l'ai écouté il n'y a pas longtemps par Emmanuel Depoix au Forum Léo Ferré.
Emmanuel Depoix est formidable.
C'est côté masculin,
pour moi l'interprète. J'adore Emmanuel. Je trouve que c'est quelqu'un.
Vous étiez rapprochés à Barjac dans le même spectacle Barjac, sur Léo Ferré. Donc vraiment c'était une très forte soirée. Donc masculin ou féminin, je crois que Léo Ferré serait heureux d'être pris de cette façon.
Il a été heureux déjà, il a été heureux par des grands,
même avant qu'il ne commence. Ouais. Mais que ça continue 20 ans après son départ. Est-ce que tu crois qu'il s'en doutait que ça allait
il disait d'une pirouette que la postérité s'en foutait, mais il s'en foutait pas du tout parce que encore une fois comme c'est la musique qui est le plus importante, il faut absolument pas oublier que s'il s'est mis à faire des chansons, c'est au départ en allant chercher des gens qui écrivaient des textes et en leur demandant la permission. La démarche qu'il a fait auprès de Jean-Roger Cosimo, il l'a fait auprès de plusieurs autres personnes, dont des gens pas connus. Ses toutes premières chansons, il les écrit à Monaco, avec une dame qui était âgée d'une quinzaine d'années de plus que lui, qui écrivait de très mauvais textes. Mais déjà, avant, il a essayé de placer ses musiques sur ses textes. Je pense que derrière la pirouette, disons qu'il se fiche complètement de la postérité, je pense que ce qu'il souhaitait profondément, c'est peut-être pas que toute son œuvre dure, mais ce à quoi il tenait particulier, c'est sa musique. C'est-à-dire qu'on l'interprète parce que ça permet de continuer à sa musique de vivre, je crois que c'est pour lui l'essentiel. C'est pour lui l'essentiel. qu'elles soient en accompagnement des textes.
Il a écrit toutes ses musiques.
Oui, il a même écrit des musiques sur les textes des autres.
Oui, aussi, bien sûr.
Mais c'est quand même la musique qui a servi à tout, puisque la musique lui a servi, c'est ce à quoi il tenait quand il disait qu'il fallait, comme pour la musique, faire descendre la poésie dans la rue. En fait, en mettant en musique, que ce soit Apollinaire il a écrit un oratorio pour la chanson du Mal-aimé. Ça, c'est la pièce musicale la plus importante, mais il a mis en musique des quantités de textes de Verlaine, de Rimbaud, d'Apollinaire.
Aragon?
Aragon aussi, bien sûr.
Énormément.
Aragon aussi, bien sûr. Si la poésie d'Aragon continue à courir les rues et les oreilles, c'est grâce à Ferrat et à Ferré.
Et
en plus, ils ont eu un peu la même démarche, parce que Ferrat n'a pas la dimension ni la passion musicale qu'avait Ferré, mais c'est un très joli mélodiste. Et ce qui est assez intéressant, c'est la façon dont ils ont abordé tous les deux, évidemment sans se concerter.
Oui, ils étaient différents, de toute façon, en tant qu'artistes.
Oui, mais ils s'appréciaient beaucoup. Hein.
Ils s'appréciaient beaucoup, mais différents.
Jean Ferrat a dit, et s'est prouvé, que le seul artiste au monde auquel il a demandé un autographe, c'est Léo Ferré.
Ah, c'est beau.
Ça, c'est assez étonnant. Et même s'il aimait Brassens, etc., simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont abordé les textes d'Aragon de la même façon. Hein? C'est-à-dire qu'ils sont allés, un peu comme Brassens le faisait aussi, mais Brassens l'a fait dans beaucoup de poètes, chez Victor Hugo, ils sont allés chercher chez Aragon, dans des longs poèmes, une strophe par-ci, une strophe par-là, puis ils les ont montés eux-mêmes, ils en ont fait une chanson. Hein? Et la démarche de Ferrat est exactement la même que celle de Ferré. Ils ont travaillé exactement de la même façon, c'est très étonnant. Et c'est grâce à ça qu'Aragon est toujours dans les têtes, il est toujours dans les spectacles, on l'interprète toujours. C'est parce qu'ils ont fait ce travail, parce que sinon les poèmes dans lesquels ils ont pioché, c'est d'immenses poèmes, c'est pas des trucs de bistrophes. Là aussi, oui, il y avait Aragon, mais Cosimon, Cosimon est un poète aussi. Et Léo a mis des musiques partout.
Ne chantez pas la mort, c'est...
Oui, mais dès bien sûr, c'est de Cosimon. Oui, mais il a travaillé avec Segers, il a travaillé plein d'autres gens, quoi. Donc
Alors ce livre, Jean-Paul, il s'appelle Léo Ferré, Le désordre, c'est l'ordre moins le pouvoir. Donc il y aurait une analyse à faire là, sur ce texte, ce petit texte.
C'est décalé, c'est ça.
C'est complètement. Ouais.
C'est décalé de Proudhon. C'est pas exactement la phrase
de Proudhon.
C'est
pas tout à fait la même phrase.
Changé, hein. Oui.
Mots d'amour et autres provocations, et voilà.
Ben, ça donne le moteur.
Exactement.
Voilà. Mais
on comprend
encore
tout
une
après.
Fois. Quelque part. Bon, il a fait la série qu'on connaît, les deux disques qu'on connaît, Amour Anarchie, mais on pourrait faire Amour Anarchie Musique, quoi. C'est-à-dire que derrière tout ça, il y a de toute façon la musique qui est induite. C'est-à-dire que la plus grande des provocations de Léo Ferré, c'est quand même cette attitude de cet enfant qui, ayant composé un truc dans sa tête à 4 ans, à 20 ans et quelques, ayant fait, personne ne le sait, ça, un Ave Maria pour le mariage de sa sœur. Ce type-là, il dirigeait la mer depuis les remparts de Monaco. Si c'est pas la plus grande des provocations,
bien sûr.
C'est extraordinaire. Alors évidemment, il avait vu des grands musiciens grâce à son père au casino de Monte Carlo, etc. Il avait eu la chance, mais en même temps, son père ne voulait pas qu'il parte de ce côté-là. On lui a interdit de faire du piano. Sa sœur avait un piano, il n'avait pas le droit de jouer. Il jouait en cachette. Il a appris le piano.
Parce qu'il voulait organiser
la destinée de leur fils. Alors que la sœur, ça n'avait pas d'importance. Une femme, ça n'avait pas d'importance. Sans doute, elle avait le droit de jouer du piano. Elle avait un piano. Léo n'avait pas le droit. Léo n'a pas pu rentrer au conservatoire. Et Léo est un autodidacte de la musique. Mais c'est gigantesque. C'est gigantesque. Parce que Brassens est un autodidacte aussi. Mais Brassens, c'est quand même dans un domaine musical, le jazz manouche, etc. Léo a tout appris tout seul. C'est incroyable, quoi. C'est pour ça que tout prouve que l'essentiel pour lui, c'était la musique.
Et même dans La mémoire et la mer, ça accompagne. On a l'impression que la musique est.
Ah bah la musique est tellement importante qu'il a repris. Voilà. Il a repris la musique de La mémoire et la mer pour Christie, c'est exactement la même musique. Et puis, alors il y a un autre mot qu'on n'a pas prononcé. On a dit. La poésie, la musique, l'amour, la mort, mais il faut dire la mer aussi.
La mer, bien sûr.
Voilà. Et puis, toutes les correspondances, c'est très rimbaldien, sa façon de penser. Il pense la mer comme une femme, il pense l'amour comme la mort, c'est très étonnant, quoi. Il y a des résonances et des correspondances sans arrêt. C'est à la fois baudelairien, rimbaldien, c'est très étrange, et en même temps, ça ne cesse d'être musical. Puisque dans la mémoire et la mer, dans toutes les images qu'il véhicule, dans la musique qu'il a mis derrière, on l'entend la mer.
Bien sûr.
Donc on entend la musique de la mer, on n'entend pas que la musique de Léo Ferré. Souviens-toi de ce chien de mer que nous... Voilà, bon,
et
etc.
Quoi. C'est...
Alors on l'écoute, et tout de suite après on écoutera, après La mémoire et la mer par Annick Césarine, on écoutera ces 400 coups que tu as eu la gentillesse de me ramener, et j'expliquerai après pourquoi j'avais envie qu'on la diffuse. À toi Jean-Jacques.
Petite sœur de mon enfant et de mon signe, un bateau, ça dépend comment, leur rime en porte de justesse. Il pleure de mon firmament des années-lumière, et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime te lancer laborieusement baiser et te ramasser dans ses rimes, comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire. Celui que je voyais briller au doigt du sable de la terre. Rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole et qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûre que la vie est là avec ses poumons de flamelle. Quand il pleure de ce temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume. Cette bave des chevaux ras au ras des rocs qui se consument. Oh, l'ange des plaisirs perdus, aux rumeurs d'une autre habitude. Mes désirs dès lors ne sont plus qu'un chagrin de ma solitude. Et le diable des soirs conquis, avec ses pâleurs de rescousse, et le squale des paradis dans le milieu mouillé de mousse. Reviens, fille verte des fjords, reviens, violon des violonades, dans le port fanfare les corps, pour le retour des camarades. Au parfum rare des salins, dans le poivre-feu des gerçures, quand j'allais géométrisant mon âme au creux de ta blessure, dans le désordre de ton cul, poissé dans des draps d'aube fine, je voyais un vitrail de plus. Et toi, fille verte, mon spleen. Les coquillages figurants sous les sonnettes cassées liquides, du jeu de la castagnette tend, conduirait l'Espagne livide, dieu des granits, ayez pitié de leur vocation de parure, quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure. Et je voyais ce qu'on pressent, quand on pressent l'entrevoyure, entre les persiennes du sang et que les globules figurent, une mathématique bleue sur cette mer jamais étale, d'où me remonte peu à peu cette mémoire des étoiles. Cette rumeur qui vient de là, sous l'arc copain au chemin aveugle, ces mains qui me font du fla-fla, ces mains ruminantes qui meuglent. Cette rumeur me suit longtemps, comme un mendiant sous l'anathème, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème. Et sous mon maquillage roux, s'en vient battre comme une porte, cette rumeur qui va debout dans la rue en musique morte. C'est fini la mer, c'est fini sur la plage, le sable belle, comme des moutons d'infini. Quand la mer bergère m'appelle.
tirés par tous les bouts. Campés tirons les 400 coups. Sonner à la porte du diable, comme on sonnerait le pasteur. Être le 13e à sa table, même si ça doit porter bonheur. Ouvrir le bottin des misères, à la page 89. Dire à monsieur de Robespierre, faites-nous des habits tout neufs.
S'il faut tirer par tous les bouts, copains, tirons les 400 bouts.
Téléphoner à la grande ourse pour y louer un appartement. Et comme il faudra faire nos courses, mettre des rails au firmament. Pousser des ailes à nos épaules et s'enrôler dans l'armée de l'air. Lâcher dans des carmagnoles et des paras sur le tonnerre.
S'il faut tirer par tous les bouts, copains, tirons les 400 coups.
Donner aux brebis des bergers, chevaux des maquignons frais, aux chiens les flics de la fourrière, aux baleines les baleiniers, aux oiseaux le permis de chasse, aux enfants les parents mineurs, aux souris le matou d'enfance, aux matous les toits du bonheur.
Tirez par tous les bouts,
copains, tirons les 400 bouts. Aller au cinéma palace et s'engouffrer dedans l'écran. Prendre Bardot par la tignasse et la carrer dans nos divans. Faire l'amour à l'algébrique avec les inconnus du coin, et d'un triangle nostalgique faire des petits républicains.
S'il faut tirer par tous les bouts, copains, tirons les 400 coups.
Unir en cœur tous les poètes, tous ceux qui parlent avec des mots, leur recommander des chansonnettes, on déduira de leurs impôts. Mettre un bicorne à la romance et l'amener à l'institut avec des orgues.
Libertaire, émission de rimes et de notes. Oh, que le temps passe vite avec vous, mes amis. Oh là 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 là. Mais, de toute façon, c'est pas grave, on refait ça en 2014. Hein?
Oui, bah hein? Oui.
Oui, de toute façon, à mon avis, pour les siècles à venir, tous les ans, ce sera l'année ferrée.
Voilà. Voilà.
Décret personnel.
Allez, c'est décrété ouais, par Jean-Claude Liégeois.
Chaque année sera une année ferrée.
Alors, ce livre, voilà, qui est au Cherche-Midi, Le désordre, c'est l'ordre, moins le pouvoir, Léo Ferré, mots d'amour et autres provocations, avec des citations, tu as un peu puisé dans ses textes, tu as puisé.
Non, absolument pas dans ce qu'il a chanté sur scène enregistré. Tout a été pris ailleurs, dans des textes inédits.
Non, parce que, regarde, ces femmes comme un goût d'étoile en allée, c'est Léo de Métamect.
C'est parce que parfois dans les entretiens ou dans des textes, il se reprend lui-même.
D'accord.
Mais si tu veux, moi je suis pas allé, je n'ai écouté aucun enregistrement pour faire ce
d'accord,
livre.
D'accord, parce que aussi dans Bestiaire, il dit t'avais le cœur comme un tambour pépé, parce qu'il le dit aussi dans un.
Il se cite.
Parce qu'elle est dans la chanson.
La
aussi,
caractéristique de Ferré, c'est voilà. qu'il se cite dans des interviews.
Donc,
avec l'accord de Marie et des enfants, j'ai simplement utiliser des citations, oui. Et quand il s'auto-cite par rapport à son œuvre, je ne vais pas le censurer.
Bien sûr. Et là, il y en a combien à peu près des citations? Tu les as
aucune
pas comptées, mais il y en
aucune
a
idée.
Énormément.
Au départ, on était parti pour faire un livre de 120 pages, et ça fait le double à l'arrivée, ça fait 250. Oui, et puis ça pourrait être infini. Hein, je veux dire,
et chacun analyse chacun de ce qui est dedans.
On peut l'ouvrir le matin, c'est ce qui est chouette, et c'est ce que je fais le matin. Pouf, je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais lire? C'est chouette, parce que c'est un bouquin qui peut être dans son sac, et on l'ouvre, et puis tout d'un coup, ça fait voyager sur une phrase.
Mais le fait qu'il s'auto-cite, c'est la démonstration de ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas de différence entre sa vie et son œuvre, et qu'il y a une concordance, une correspondance permanente entre les deux. Ouais. Je pense qu'il se cite inconsciemment parfois.
Ouais, bien sûr. Donc, on ne peut qu'inciter les auditeurs, voilà, s'ils ont des cadeaux à faire intelligents. Léo Ferré, je pense qu'il sera à Publico 145 rue Hamelot.
Oui, il y est déjà, je suppose. Oui.
Qu'il y est peut-être déjà. L'album d'Annick, il y est aussi, je pense.
Oui, l'âge d'or, dans toutes les boutiques,
le
Harmonia Mundi, et puis notre nouveau spectacle, donc qu'on joue ce lundi-là,
au Connétable.
Le téléphone, voilà. Il est là.
Voilà.
C'est au Connétable, c'est 55 rue des Archives. Voilà. On joue le 23. On va jouer aussi le 6 janvier, le 20 janvier et le 27. Pratiquement tous les lundis, sauf le 13. Voilà.
01 82 01 65 99 pour. Il pleut, je crois. On voit Anne-Sylvestre pleine de petites gouttes de pluie. Et
c'est à 20h. Et c'est métro, donc le téléphone. C'est métro Rambuteau, hôtel de ville, c'est rue des Archives. Voilà, c'est un petit cave tout à fait sympathique.
Ouais. Et
voilà.
C'est Robin qui
organise tout
voilà,
ça.
Qui était à l'Alphabet Désiré autrefois.
Voilà.
Voilà. Ben, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.
Merci à toi, Marlène.
Surtout acheter ce livre qui est magnifique.
Voilà, vous revenez quand magnifique. Vous voulez et bonne chance pour la préparation, pour ton spectacle, pour tout ce que tu fais. Je sais qu'il y a une pièce de théâtre.
Oui, je joue là aussi, des héritiers au théâtre 13. Je fais la pub. Ben, on joue jusqu'à dimanche. Voilà.
Ouais, ben, mais bon courage.
C'est bien déjanté. Ça n'a rien à voir avec Léo. C'est une pièce serbe. Voilà.
Mais magnifique.
On continue.
Eh bien, je suis très content que vous ayez accepter l'invitation et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Toi aussi. Hein.
Plein de belles choses en chanson, en musique. Voilà. Merci beaucoup aussi pour tout ce que tu fais sur Jean-Paul, pour la chanson aussi, parce que par rapport à travers les livres que tu édites. Hein. Il y a eu Léni, Georges Moustaki, Guy Béard, enfin, il y en a un tas.
Traîner, Brassens, etc.
Et continue dans cette lancée. C'est magnifique. Merci beaucoup. Eh bien, on va pour entamer. On l'a écouté, la chanson qu'on voulait écouter
non,
après.
On va terminer avec.
Voilà.
C'est Le bateau espagnol.
Voilà.
Que Léo, c'est un enregistrement exceptionnel.
Voilà.
En 1974, il l'a enregistré en étant accompagné par Juan Cedrón et Paco Ibáñez.
Et Les Cassancous, c'est parce que je l'écoutais par tournée générale et je me souvenais plus de cette chanson. Ça m'a donné envie de la rediffuser.
Mais
c'était
là,
au Forum Léo
Ferré. Là, on va écouter Ferré accompagné à la guitare, ce qui est.
Rare.
Si c'est jamais
très rare.
Mais pas n'importe quelle guitare, celle de Paco et celle de Juan Cedrón, c'est quand même.
Alors on l'écoute tout de suite.
Un grand bateau descendant la Garonne, farci de contrebande et bourré d'Espagnols. Les gens qui regardaient saluait la Madone que j'avais attachée en poupe et par le col. Un jour, je m'en irai très loin en Amérique, donner des tonnes d'or aux nègres du coton. Je serai le bateau pensant et prophétique, et Bordeaux croulera sous mes vastes pontons. Qu'il est loin le chemin d'Amérique, qu'il est loin le chemin de l'amour. Le bonheur, ça vient toujours après la peine. T'en fais pas, mon ami, je reviendrai. Puisque les voyages forment la jeunesse, t'en fais pas, mon ami, je vieillirai. Rassasié d'or ancien, ployant sous les tropiques, un jour m'en reviendrai, les voiles en avant, porteur de blé nouveau, avec mes coups de trique, tout seul, mieux qu'un marin, je violerai le vent. Harnaché d'Espagnols, remontant la Garonne, je rentrerai chez nous, éclatant de lueur. Les gens s'écarteront, saluant la Madone en poupe par le col et d'une autre couleur. Le chemin de l'Espagne, qu'il est long, le chemin du retour. Le bonheur, ça vient toujours après la peine. T'en fais pas, mon ami, je reviendrai. Puisque les voyages forment la jeunesse, je te dirai, mon ami, à ton tour.